8h sur France Culture. Bon réveil, si vous nous rejoignez, nous sommes le vendredi 21 octobre 2016 et voici le journal d'Amélie Perrier. Bonjour Amélie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. L'Europe, bien impuissante face au drame syrien, le sommet des 28 dirigeants de l'UE a dénoncé les atrocités en cours à Alep, sans toutefois prendre de nouvelles sanctions contre la Russie.
À Mossoul, la guerre fait rage pour reprendre aux djihadistes la deuxième ville du pays. Des combats à l'arme lourde dans les villages alentours, notre envoyé spécial est sur place.
L'accord commercial entre le Canada et l'Europe également au menu du sommet européen, le Parlement régional de Wallonie continue de bloquer la ratification.
La colère des policiers, manifestation encore cette nuit partout en France, et le président François Hollande s'implique et propose de rencontrer les syndicats.
Et ce constat accablant, une majorité de Français pense que les politiques sont corrompus. Une étude vient de paraître, preuve supplémentaire d'une défiance croissante entre les dirigeantes et les Français. Une mise en garde, mais pas de sanctions contre la Russie. Les chefs d'État et de gouvernement européens sont réunis en sommet à Bruxelles et lors du dîner hier soir, la Syrie a occupé les discussions, en particulier ce qu'ils ont qualifié d'atrocités commises à Alep. Bonjour Quentin Dickinson.
Bonjour Amélie, bonjour à tous.
Vous suivez le sommet européen pour France Culture. Alors la voix de l'Europe est-elle encore audible ce matin sur la Syrie ?
Eh bien, il faudrait une sérieuse dose d'euro-optimisme pour soutenir que la position de l'Union européenne sur la Syrie est lisible et unanime. Les pourparlers de la nuit dernière ont au contraire plutôt souligné les failles et les incohérences dans la démarche européenne, comme souvent abonnés au compromis fondé sur le plus petit commun dénominateur. Après plusieurs jours passés à dénoncer les atrocités commises à Alep, en des termes d'une rare fermeté, et alors qu'une très nette majorité des chefs d'État et de gouvernement penchait pour une riposte claire aux actions de la Russie en Syrie, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni n'ont rien pu faire pour muscler davantage le texte du communiqué. Voici d'ailleurs la version initiale de ce texte. Le Conseil européen envisage des mesures restrictives supplémentaires contre la Russie. Et dans la version définitive, on lit « Le Conseil européen n'exclut aucune option si les atrocités devaient se poursuivre ». Car le Premier ministre italien Matteo Renzi, appuyé par sa compatriote Federica Mogherini, patronne de la diplomatie commune de l'UE, a mené un efficace combat de tranchées contre toute nouvelle sanction contre Moscou, au motif que cela serait inefficace et braquerait davantage Vladimir Poutine. De son côté, le Parlement européen n'est pas resté inactif. Trois groupes politiques, la droite avec le PPE, le centre avec l'ADLE et les Verts, ont signé une déclaration commune appelant les chefs d'État et de gouvernement à la plus grande fermeté vis-à-vis du Kremlin. Ils n'ont pas été entendus, car pendant ce temps, le Kremlin, toujours lui, dépêche 7 navires militaires supplémentaires au large des côtes syriennes.
Quentin Dickinson, merci beaucoup en direct ce matin de Bruxelles pour France Culture. La durée de la pause humanitaire décrétée à Alep reste confuse jusqu'à ce soir selon Moscou, demain soir pour l'ONU. En tout cas, aucun habitant des quartiers rebelles apparemment n'a emprunté les couloirs établis pour évacuer les civils, les blessés et les combattants anti-Assad. Alep, deuxième ville de Syrie, devenue un enjeu majeur de la guerre et vit sous un déluge de bombardements depuis plusieurs semaines. En Irak voisin, la bataille du moment, c'est Mossoul, aux mains des djihadistes de l'État islamique depuis 2 ans et demi. Les combattants kurdes ont lancé l'assaut hier sur plusieurs villages autour, quelques kilomètres de gagnés par les Peshmerga sur Daesh, au prix d'échanges violents à l'arme lourde. Notre envoyé spécial sur la ligne de front a suivi hier toute la journée les combattants kurdes. C'est un reportage de Philippe Randé.
C'est un combat de rue qui a pour décor des chemins de sable. Un combat de rue où Peshmerga kurdes et snipers djihadistes s'affrontent pendant des heures pour le contrôle d'une petite maison de campagne. Entre deux salves de roquettes, Mohamed observe ses amis progresser au milieu des panaches de fumée noire.
C'est une bataille très difficile. Ils sont cachés dans les maisons, en position défensive, et nous on attaque à découvert. Mais on va y arriver. Il y a encore 300 à 400 djihadistes juste là devant nous. Et comme ils sont cachés et très mobiles, un djihadiste équivaut à 100 peshmergas.
Un peu plus loin, Kalachnikov pointé vers l'ennemi, Saïd observe nerveusement les mouvements adverses avec une paire de jumelles. Comme beaucoup de peshmergas, il pensait que l'offensive débutée hier matin serait plus facile.
J'ai l'impression que les djihadistes sont en face de nous là. Ils viennent d'autres villages proches de Mossoul. Ils veulent montrer leur force, impressionner. Ils n'hésitent pas à se faire exploser en voiture ou en kamikaze. Ils veulent vraiment prouver qu'ils sont forts et que la bataille de Mossoul sera compliquée.
Toute la journée, au milieu des explosions, les ambulances ont traversé les lignes de front pour transporter les dizaines de soldats kurdes blessés. Certes, les Peshmerga ont progressé de plusieurs kilomètres. Ils ont repris des villages, mais Mohamed Ahmed est inquiet pour la suite.
Dans Mossoul, ça va être compliqué avec tous les civils. En plus, va falloir faire la différence entre les sunnites qui sont contre Daesh, ceux qui ont combattu avec eux, donc ça va prendre du temps de les séparer.
Et en attendant, Mossoul, qui est encore à 15 km, les forces kurdes vont poursuivre leur offensive sur Bachika avec un objectif: libérer la petite ville chrétienne dans les prochains jours.
Voilà le reportage près de Mossoul de Philippe Randé avec Raymond Alboui. Olivier Roy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'invité des Matins de France Culture, directeur de recherche au CNRS. Vous avez publié Le djihad et la mort. Alors ces djihadistes de Daesh à Mossoul, peuvent-ils résister à l'offensive en cours? Est-ce qu'ils sont assez formés, assez équipés?
Je pense pas qu'ils vont résister sur le long terme, mais ils vont se battre durement, surtout qu'ils servent en quelque sorte de bouclier de protection aux leaders de Daesh, qui eux évidemment sont en deuxième ligne et évacueront Mossoul dès que Mossoul sera sur le point d'être prise.
Les Américains ont dit il y a quelques jours que les dirigeants de Daesh avaient fui Mossoul. Alors il y a certainement un peu de propagande là-dedans. Vous croyez que c'est possible que les dirigeants fuient Mossoul et laissent en première ligne des djihadistes étrangers, par exemple?
Ah oui, évidemment, les djihadistes étrangers sont là pour ça. Ils sont là pour commettre des attaques suicides qui coûtent très très cher aux attaquants, aux Kurdes et aux chiites.
Mais ce sont de vrais combattants qui sont formés à la guerre?
Une partie d'entre eux, mais en fait, c'est des gens qui ne servent qu'une fois. Quand ils jettent leur camion blindé rempli d'explosifs dans les rangs des Peshmerga. Donc ça durera aussi longtemps qu'ils ont une réserve de terroristes, de candidats au suicide potentiel.
Et on parle de 3000 à 4500 djihadistes en ce moment dans Mossoul, ça vous paraît une estimation fiable?
Je ne connais pas les chiffres, mais oui, c'est tout à fait fiable.
Merci beaucoup Olivier Vran. On vous retrouve pour la seconde partie de votre entretien dans les Matins de France Culture après ce journal à 8h20. Conséquence de ces conflits, mais aussi des famines, d'autres régimes autoritaires, l'exode massif des populations. Nous vous emmenons justement aujourd'hui dans notre magazine de la rédaction à Lesbos, petite île grecque, point d'arrivée de nombreux candidats à l'exil. Bonjour Marie-Pierre Véraud.
Bonjour Amélie.
Alors vous avez pu constater à Lesbos que la situation pour les migrants, c'était encore dégradé à cause notamment de l'accord conclu avec la Turquie, accord qui bloque tout.
Et oui, et ils sont désormais ces migrants bloqués en effet sur cette île qui était avant un point de passage, une étape dans le voyage vers le reste de l'Europe, mais depuis le 20 mars, ils ne peuvent plus passer, l'île s'est transformée en une île prison. Alors cela peut sembler un terme fort, hein, mais c'est bien ce qui revient dans toutes les conversations que j'ai pu avoir avec ces migrants, ou sans doute faudrait-il dire ces demandeurs d'asile, car ils déposent tous une demande d'asile en Grèce dès leur arrivée, pour éviter d'être renvoyés en Turquie comme le prévoit l'accord. Résultat, le processus est grippé car l'examen de cette demande prend du temps et alors que les migrants continuent à arriver sur l'île, aucun n'en repart plus. Alors, toutefois, il faut rappeler que l'accord a mis un quasi coup d'arrêt à ses traversées depuis la Turquie puisqu'en moyenne, ce sont une centaine de personnes qui arrivent chaque semaine quand elles étaient l'année dernière à la même époque plusieurs milliers chaque jour. Mais pour ceux qui sont là, eh bien, c'est une grande détresse, notamment dans le camp de Moria, le plus grand de l'île où s'entassent près de 3000 personnes pour des capacités d'accueil deux fois moindres et une attente qui se prolonge avec une procédure d'asile qui n'avance pas.
Oui, Marie-Pierre, les services de l'asile sont totalement débordés.
Oui, services grecs et européens d'ailleurs. Certains des migrants arrivés en mars n'ont toujours pas pu déposer leur demande d'asile. Les dates de convocation changent en permanence au gré de priorités changeantes, elles aussi des services de l'asile auxquels d'ailleurs personne ne comprend plus rien. Et dans ce vide s'engouffrent les rumeurs selon lesquelles telle nationalité serait mieux traitée que telle autre, ce qui crée des tensions entre communautés. Il y a un mois, c'est une rixe entre Afghans et Africains qui a débouché sur l'incendie d'une partie du camp de Moria. Résultat, nous avons aujourd'hui des migrants qui attendent dans un grand dénuement, qui se demandent quand ils seront convoqués, s'ils le seront un jour. Et c'est cette incertitude sur leur avenir qui crée du désespoir. Car avant, il y avait certes de la souffrance, mais l'espoir de continuer sa route aujourd'hui, c'est vraiment l'impasse à Lesbos.
Lesbos, terre de détresse, c'est le titre de votre magazine de la rédaction, Marie-Pierre Véraud. Merci beaucoup. C'est réalisé cette semaine par Yacine Bouzard et Jean-François Braun. Et ce sera présenté de 17h à 18h par Aurélie Kiefer sur France Culture. Le dossier des migrants, cela fait aussi partie du menu du sommet européen qui se poursuit aujourd'hui, tout comme le CETA. Et là, c'est un gros morceau qui ne passe pas. Le CETA, c'est le traité de libre-échange entre l'Europe et le Canada. En négociation depuis 7 ans, il devait être validé aujourd'hui par les 28, ratifié la semaine prochaine. C'était sans compter le veto posé par un parlement régional en Belgique, celui de la Wallonie. Le point avec Pierre Benazé.
Le gouvernement régional wallon a épluché jusqu'en début de soirée ces nouveaux textes pour conclure que malgré des avancées sur les questions agricoles, le projet reste pour l'instant inacceptable. Paul Magnette, ministre-président régional de la Wallonie.
Nous avions clairement indiqué que nous avons une vraie difficulté avec le mécanisme d'arbitrage et le fait qu'il pourrait être utilisé par des multinationales basées au Canada qui ne sont pas véritablement des sociétés canadiennes. et sur ce point, nous considérons que les avancées ne sont pas suffisantes. Le Canada considère qu'il reste des marges de négociation. Je suis au regret de devoir constater, de manière manifeste, que le Canada, aujourd'hui, est plus ouvert que l'Union européenne.
Paul Magnette rencontrera donc ce vendredi la ministre canadienne du Commerce, actuellement en Belgique. Il informera le Parlement régional de Wallonie de ce nouveau rejet du projet de traité. Des consultations sont aussi prévues avec le gouvernement fédéral belge et la Commission européenne. Sauf surprise, il y a très peu de chances qu'elles aboutissent avant la fin du sommet européen.
Et on reste au sommet européen de Bruxelles, puisque c'est de là que cette nuit, François Hollande s'est exprimé sur la colère des policiers.
Oui, cette colère des agents prend de l'ampleur. Cette nuit encore, des manifestations sauvages ont eu lieu un peu partout en France, à Paris, Lyon, Marseille, Montpellier, Toulouse, Bordeaux ou encore Tarbes et Carcassonne. Des centaines de fonctionnaires, hors de tout cadre syndical, faisant fi de leur devoir de réserve et de toute déclaration préalable en préfecture d'ailleurs, pour dire leur ras-le-bol face au manque de moyens et face à ce qu'ils ressentent comme l'impunité laissée aux délinquants par la justice. Leur colère est donc désormais entendue. Au sommet de l'État, François Hollande a décidé de s'emparer du problème. On l'écoute.
Les policiers, comme les gendarmes, font un métier extrêmement difficile, périlleux. Ce qui s'est produit dans l'Essonne est à tous égards insupportable. Et les policiers ont fait un travail remarquable ces derniers mois, ont été soumis à une pression considérable. Mais je sais qu'il y a ce malaise qui est profond et qui est d'ailleurs depuis longtemps chez nos fonctionnaires de police et nos gendarmes. Je recevrai les organisations représentatives de policiers dans le début de la semaine.
François Hollande qui s'exprimait cette nuit en marge du sommet européen à Bruxelles. La campagne présidentielle à droite, c'est l'avertissement de Nicolas Sarkozy. Le candidat à la primaire a fait monter la tension d'un cran. Hier, en sommant les alliés d'Alain Juppé, les centristes François Bayrou et Jean-Christophe Lagarde, de soutenir le vainqueur, même en cas de défaite du maire de Bordeaux. Une pique surtout contre François Bayrou. Nicolas Sarkozy n'a jamais digéré son soutien en 2012 à François Hollande. Le maire de Pau s'est engagé cette fois-ci aux côtés d'Alain Juppé, mais pas question pour lui de voter à la primaire, ni de se sentir lié par le résultat. François Bayrou est même prêt à se présenter à la présidentielle si Alain Juppé n'est pas qualifié. Cette primaire et celle de la gauche ou encore celle des écologistes peuvent-elles réconcilier les Français avec leur classe politique ? Pas sûr, tant la défiance a grandi. Ainsi, selon un sondage Harris Interactive pour l'association Transparency International, plus d'un Français sur deux pense que les personnes exerçant des responsabilités importantes ou ayant du pouvoir sont, pour une grande partie d'entre elles, corrompues. Un constat accablant, Sophie Delpont.
Les députés et les sénateurs arrivent en tête des responsables jugés les plus corrompus selon 77% des personnes interrogées, juste devant les députés européens. En troisième position, le gouvernement jugé corrompu par 72% des sondés. Viennent ensuite les syndicalistes, puis les journalistes estimés corrompus par près de 60% des personnes interrogées. Pour lutter contre la corruption de la vie politique, 84% des sondés pensent qu'il faut en premier lieu un renouvellement des responsables politiques en limitant les mandats dans le temps et en interdisant le cumul entre un mandat parlementaire et un mandat exécutif local. Deuxième mesure plébiscitée, limiter et contrôler encore davantage le financement de la vie politique venant des partis, des entreprises et des particuliers. Encadrer plus strictement le lobbying, renforcer l'indépendance de la justice et un contrôle drastique de la situation fiscale des ministres et des hauts fonctionnaires avant leur prise de fonction. 75% des sondés souhaitent que les citoyens puissent participer plus activement aux décisions qui les concernent, plus de démocratie participative. Car la démocratie, c'est bien ce qui est en jeu à travers ce sondage accablant. Tout comme le sentiment d'insécurité, la certitude, avérée ou non, du tous pourri, contribue à creuser un peu plus le fossé entre les citoyens et les élus.
Et comme s'il fallait un exemple, Patrick Balkany vient d'être mis en examen une nouvelle fois. Des juges d'instruction le soupçonnent d'avoir caché au fisc une partie de son patrimoine, des luxueuses propriétés aux Antilles et au Maroc. Le maire de Levallois a déjà été mis en examen dans cette affaire pour corruption passive, fraude fiscale et blanchiment. Il l'est désormais pour blanchiment de corruption et fraude fiscale aggravée par son caractère habituel, également pour prise illégale d'intérêt. Voilà une mesure très attendue par les associations en France, souvent à la recherche, elles, de subsides pour perdurer. Un CICE associatif. Le dispositif est inscrit dans la loi de finances débattue en ce moment à l'Assemblée et correspond à ce qui se fait déjà en entreprise, c'est-à-dire un crédit d'impôt pour les associations employant des salariés jusqu'à 20 000 euros de masse salariale. Une aubaine pour ces organismes comme Voisins Malins qui s'affairent à créer du lien entre les habitants dans les quartiers populaires. Marc Ventouroute.
À l'annonce de la mesure, ça a été le soulagement pour Béatrice Gaillard, la directrice opérationnelle de Voisins Malins.
Comme c'est un service qui est intéressant pour la collectivité locale, on essaye aussi de toucher des subventions locales. Les subventions ne peuvent pas financer du salaire. Quand j'ai entendu que le 6 allait arriver et qu'on allait pouvoir en bénéficier, je me suis dit, ben voilà, ça va réparer une injustice.
Il faut dire que l'association emploie plus de 70 personnes et une dizaine d'embauches sont déjà prévues d'ici la fin de l'année.
C'est difficile d'embaucher ces gens-là et ça va nous aider à le faire, quoi. Notre matière première, qui est la matière humaine, est une matière chère. Donc le CICE, ça va nous aider à avoir des prix plus compétitifs et à continuer à faire passer ce message d'homme à homme plutôt que par des flyers dans les boîtes aux lettres ou par des vidéos.
Impossible donc de se passer de salarié. À Voisins Malins, ils ne travaillent pas plus de 20 heures par mois pour un revenu d'1,3 fois le SMIC horaire, pile dans les critères imposés pour bénéficier du crédit d'impôt. Vincent Bernardo est le directeur financier de l'association.
Il y a un certain montant de taxes sur les salaires que l'association doit payer, c'est relativement lourd. Le fait de pouvoir réduire de manière assez significative cette taxe sur les salaires, c'est comme si la taxe sur les salaires était quasiment réduite à zéro.
En France, près de 2 millions de personnes travaillent dans une association. La large majorité d'entre elles bénéficiera du CICE associatif.
On termine par le temps de ce vendredi. Très nuageux, encore des averses au nord. Le soleil se maintient en revanche au sud. Les températures au petit matin vont de 3 à 10 degrés. Cet après-midi, on attend 13 à Aurillac, 14 degrés à Paris, 14 aussi à Lyon, 17 à Quimper, 18 à Bayonne et 19 pour Montpellier, Guillaume Erner.
Merci beaucoup Amélie Perrier.